de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un moment historique. L'émission qui suit pourrait s'intituler « En attendant Elisabeth ». En attendant Elisabeth II, plus précisément, et moins familièrement. Le cortège royal finira-t-il par arriver ? La reine et son époux, après être passés devant quelques Corot, Gainsborough, Reynolds, Russells, Pisanello, Boucher et Lorrain, pourront-ils enfin, aux côtés du président René Coty, du ministre d'État garde des Sceaux François Mitterrand et de tant d'autres personnalités du monde politique, déguster la truite givrée printanière, le délice de pintade Véronique, le hérisson périgourdin au nid, les mignardises et la pêche glacée. Intimité fastueuse, grandeur austère et noble, grande fébrilité. Les trois reporters sont sur les dents. Il y a un peu de flottement, je crois, dit l'un d'eux. Son Altesse a-t-elle fait son entrée sans que je m'en aperçoive ? Oui, c'est ça, le direct. Nous sommes le 10 avril 1957. La veille, Elisabeth II était à Versailles et là, on l'attendait, désormais, au Louvre.
Mesdames, Messieurs, voici le reportage depuis le palais du Louvre, salle des cariatides, du dîner offert par le gouvernement à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, Son Altesse Royale le Prince Philippe, Duc d'Édimbourg et Monsieur René Coty, Président de la République. Reporter, Samy Simon, Michel Péricard, Max Petit. À vous, le palais du Louvre.
Ici le Palais du Louvre, ici Michel Péricard qui vous parle très exactement de la Galerie des Noms au Palais du Louvre. Cette Galerie des Noms est située juste après le porche d'entrée par lequel, dans quelques instants, vont pénétrer Sa Majesté la Reine Elisabeth II et le Prince Philippe, Duc d'Édimbourg. Mais auparavant, vous le savez sans doute, M. René Coty, Président de la République, sera arrivé au Palais du Louvre, 5 minutes très exactement. En effet, ce grand dîner et cette réception, donnée ce soir en l'honneur du couple royal en visite à Paris, sont offerts par le gouvernement français. C'est ce qui explique que M. René Coty arrivera un peu en avance au Palais du Louvre. Actuellement, dans cette galerie des noms où nous sommes, une double haie majestueuse de gardes républicains attend le couple royal, l'épée tirée et l'arme sur l'épaule. Entre cette double haie de garde, tout à l'heure, sont passées les personnalités invitées au dîner. Je ne sais pas exactement le nombre de convives invités à ce dîner. Il doit être, d'après ce que j'ai pu voir de la table, de l'ordre de 200-250. Et il sera suivi d'une grande réception à laquelle 2000 personnalités du tout Paris sont passées. Bien évidemment, les invités au dîner sont passés devant nous tout à l'heure, car ils doivent tous être en place avant que Sa Majesté la Reine n'arrive au Palais du Louvre. Nous avons évidemment reconnu au passage tous les membres du gouvernement, certains avec leurs femmes, certains venus seuls. Monsieur Guimollet est arrivé seul, Monsieur Billière est arrivé seul, Monsieur Ramadier était avec Madame Ramadier, ainsi que Monsieur Maurice Faure, Monsieur Chaban-Telmas et Monsieur Mitran avec Madame Mitran. Et je dois dire que la robe de Madame Mitran a fait sensation. Tous les ambassadeurs du corps diplomatique accrédité à Paris et les ambassadrices étaient également présents et les robes que nous avons pu voir étaient soit particulièrement élégantes, soit particulièrement originales et comme il est coutume de le dire, on a remarqué particulièrement les robes des femmes des ambassadeurs orientaux. Actuellement vient de passer juste devant nous Monsieur Monnerville, Président du Conseil de la République et Madame. Cette salle de la Galerie des Noms est une salle de sarcophage. De chaque côté de cette galerie sont installés sur des socles de nombreux sarcophages en provenance de très nombreuses régions du monde. Pour ne citer que ceux qui sont les plus proches de moi, je vois un sarcophage d'Asie mineure, un sarcophage d'Italie, un sarcophage de Sardaigne. Entre ces sarcophages de petites statuettes de bronze, de petites statues de bronze sur des socles de marbre, représentent des centaures et des figures mythologiques diverses. Et derrière, entre les fenêtres, des colonnes, de nombreuses colonnes de marbre divers, avec sur ces colonnes quelques têtes. Et tout au bout de cette galerie des noms, du côté où je suis, c'est-à-dire du côté opposé à l'entrée, est installée en haut des marches de l'escalier, la célèbre statue de Samothrace. Actuellement, cette statue est assez peu éclairée, malgré tout une légère lumière, mais la fait ressortir du noir profond dans lequel volontairement on l'a plongée. Car tout à l'heure, c'est une surprise pour Sa Majesté la Reine, mais je puis vous le dire à vous, tout à l'heure, au pied de cet escalier, c'est-à-dire exactement à quelques centimètres de l'endroit où nous sommes, Sa Majesté s'arrêtera et contemplera un jeu d'ombre et de lumière qu'on fera danser pour elle sur cette victoire de Samothrace, l'une des plus célèbres statues du monde. Elle ne montera donc pas l'escalier après avoir contemplé ce spectacle, mais pénétrera, tournera à gauche, descendra l'escalier, un autre escalier, et par divers salons fleuris et d'une toute beauté, j'ai pu les voir tout à l'heure, pénétrera dans un petit salon particulier où elle se reposera très exactement 2 minutes avant de pénétrer dans la somptueuse salle des cariatides.
Je m'excuse, Michel Péricard,
oui.
Où précisément je voudrais dire quelques mots avant que ne s'installe ce soir le moment historique, on peut dire, à la fois pour cette salle, pour Paris, où Sa Majesté il fera son entrée accompagné de Son Altesse Royale, le Prince Philippe et le Président de la République. Je veux vous en dire quelques mots maintenant, parce que après avoir passé de nouveau le micro à Max Petit pour saluer l'entrée de Monsieur le Président de la République, puis quelques minutes plus tard l'entrée de Sa Majesté et de Son Altesse Royale à l'intérieur du Palais du Louvre, nous n'aurons plus que le temps de revenir un très court instant assister à l'entrée majestueuse, inoubliable, dans cette salle des cariatides illuminée du cortège royal. Je voudrais donc vous dire que ce soir, véritablement, Paris et la France offrent à la souveraine, après la journée merveilleuse et radieuse de Versailles, ce qu'elle a certainement de meilleur et de plus noble et de plus vénérable. Elle va ce soir entrer dans une salle qui est l'une des plus historiques et la doyenne en tout cas des salles du Vieux Louvre. Dans ce pavillon Sully qui se situe exactement à l'emplacement du premier Louvre de Philippe Auguste. Car si l'on creuse, et on l'a fait, au-dessous de la salle des cariatides où je me trouve en ce moment, l'on rencontre les fondations du Louvre de Philippe Auguste. Et on en a retrouvé d'ailleurs des vestiges dans une salle que l'on peut visiter avec de merveilleuses colonnes, des chapiteaux, des gargouilles de style gothique flamboyant et aussi des murs d'une épaisseur de 8 mètres environ. Et tout ici respire l'histoire en quelque sorte. Cette salle des cariatides, elle date de la Renaissance, elle est un exemple de cet art inimitable, elle est un pur chef-d'œuvre. Deux grands artistes y ont travaillé, Pierre Lescot, l'architecte, et Jean Goujon, le sculpteur, et c'est de lui d'ailleurs que vient le nom de la salle des cariatides, puisque c'est lui l'auteur de ces cariatides géantes qui supportent la loggia, qui prend vue sur toute l'enfilade de la pièce. Allô, et d'où Henri II venait ici assister aux galas et aux fêtes. Mais j'entends, Péricard, que vous me parlez.
Non, c'est Max Petit, Samy Simon, qui vous parle.
Max Petit, je pense qu'il est peut-être l'instant pour vous,
justement,
d'annoncer l'arrivée du président.
Eh bien, au moment même où vous me parlez de l'arrivée du président, le président de la République, qui a été accueilli par M. Guy Mollet, président du Conseil, par M. Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères, franchit le péristyle du pavillon Dénon entre la double haie de garde républicaine en grand uniforme et la portière de la voiture présidentielle a été ouverte par deux laquais en habit à la française, c'est-à-dire culotte rouge, chaussettes bas blanc, pourpoint violine, apparemment jaune. Et maintenant, nous attendons l'arrivée de Sa Majesté Elisabeth II, reine d'Angleterre, et de Son Altesse Royale, le Prince Philippe, dans cette cour du Louvre, où les projecteurs qui ont été disposés pour éclairer l'entrée du pavillon Dénon, pavillon au-dessus duquel flotte le drapeau britannique et dont le péristyle et les colonnes sont voilées du drapeau français à droite et à gauche, éclairé par les projecteurs, ce pavillon Dénon marque tout l'art et toute l'architecture due à Pierre Lescot. Cette cour du Louvre, dans laquelle les réverbères à Saint-Branche, qui sont encore des réverbères à gaz, pâlissent à côté de l'éclat des illuminations. Et en face de moi, le carrousel est illuminé.
Eh bien, Max Petit, je m'excuse, mais je vais reprendre l'antenne un court instant, en attendant que vous ne la repreniez à votre tour, pour saluer l'arrivée de Sa Majesté et de Son Altesse Royale, puisque, je crois, le protocole a prévu environ 5 minutes d'écart entre l'arrivée du président et l'arrivée de la reine. Et en attendant, je voudrais simplement continuer de dire un mot sur la décoration extraordinaire de la salle des Cariatides où je me trouve et rappeler combien elle est historique et que aussi inaugurée en l'an 1549, elle le fut déjà pour une manifestation franco-britannique, puisque ce fut, si je ne me trompe, à l'occasion du mariage de Marie-Histoire, reine d'Écosse, avec le futur François II de France. Et il s'attache d'ailleurs à cette salle beaucoup de souvenirs de France et de Grande-Bretagne réunis, car dès l'année suivante, un grand bal y eut lieu pour le mariage d'une certaine Élisabeth, première du nom d'Élisabeth. Pour le mariage d'Élisabeth de Valois, fille d'Henri II, et qui avait épousé Philippe II d'Espagne, veuve de Marie Tudor, reine d'Angleterre. C'est d'ailleurs au cours du tournoi qui suivit qu'Henri II fut blessé accidentellement par Montgomery et mourut à la suite de ses blessures. De grandes fêtes eurent lieu également dans cette même salle, quelques années plus tard, lorsque les envoyés de la reine Élisabeth vinrent signer une alliance militaire et un pacte de commerce avec la France. Puis, à nouveau, en 1585, un grand banquet en l'honneur des ambassadeurs de Sa Majesté Élisabeth, première du nom, venue remettre les insignes de l'ordre de la Jarretière à Henri III. C'est dans cette salle que Henri IV fut ramené mourant le jour de l'attentat de Ravaillac et son cercueil fut exposé ici même durant 8 jours. C'est encore ici que Molière a joué pour la première fois devant Louis XIV, l'amour médecin. Et dès que Louis XIV habita Versailles, les académies royales furent logées au Louvre et la salle des Cariatides devint la salle des antiquités du roi, c'est-à-dire, somme toute, le premier musée de France. Pendant la Révolution, c'est ici que tint ses assises l'Institut. Et c'est ici que Napoléon Bonaparte, en 1798, fut reçu membre de l'Académie des sciences. Et c'est ici, enfin, que toute l'histoire de France apparaît devant nous dans ce style Renaissance depuis Henri II. Ici, Catherine de Médicis, puis Marie de Médicis ont vécu, et aussi Henriette d'Angleterre, après son mariage avec François II, après pendant son exil qu'elle vint passer en France, dans ce Louvre. Et maintenant, je voudrais vous dire un mot de la magnifique décoration que la salle des Cariatides a reçue. Une grande table en nu va permettre à environ 200 invités de prendre place dans cette salle, à gauche et à droite, de celles qui sont réservées à Sa Majesté, à Son Altesse Royale, le Prince Philippe et au Président de la République. Je vous dis tout de suite le nom de quelques-unes de ces personnalités principales. D'abord, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un dîner offert par le gouvernement, tous les membres du gouvernement, Monsieur Guy Mollet, Président du Conseil en tête. Puis, dans un ordre que je m'excuse peut-être de donner sans respecter tout à fait le protocole, à la droite de la souveraine, après M. Guy Mollet, président du Conseil, Mme Monnerville, M. Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères, la duchesse de Devonshire, dame d'honneur de Sa Majesté, Son Excellence Monseigneur Marella, nonce apostolique, M. le baron Guillaume, M. Émile Roche, président du Conseil économique, Mme Jean Dezy, épouse de l'ambassadeur du Canada, le comte de Scarborough, Madame Bidault, Son Excellence Laura Ismay, secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Mitran, ministre d'État, garde des Sceaux, l'aide coréen, Monsieur Gilbert Jules. Et à la gauche du président Coty, et de son Altesse Royale le Prince Philippe, Madame Christian Pinault, Monsieur André Le Toquer, président de l'Assemblée nationale, Madame Émile Roche, Monsieur Monnerville, président du Conseil de la République, Monsieur Andrew, ambassadeur de l'Afrique du Sud et doyen du corps diplomatique du Commonwealth, et de nombreuses autres personnalités, parmi lesquelles je citerai Monsieur le Général Catroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, le Général Zeller, gouverneur militaire de Paris, Monsieur Jean Chauvel, ambassadeur de France en Grande-Bretagne, ainsi que Monsieur René Massili, d'ailleurs ancien ambassadeur à Londres, Monsieur Chantier Dribe, syndic du conseil municipal, Monsieur de la Chauvinière, chef du protocole, la comtesse de Cruy-Chanel, le général Yann Val, secrétaire général de la présidence de la République, Madame Egloff, fille, comme on sait, du président Coty, les anciens présidents du conseil, en particulier Monsieur Edgar Faure, Daladier, Paul Reynaud et Malès France. Et dans quelques instants, donc, toutes ces hautes personnalités viendront s'asseoir à la table magnifiquement décorée que j'ai maintenant sous les yeux et garnie partout de fleurs et où déjà sont disposées les pièces du merveilleux service de vaisselle d'or et de service de Sèvres et de fins cristaux. Et le dîner se fera bien entendu aux chandelles, comme il se doit dans cette salle de la Renaissance, et sera orné également par de la musique qui sera jouée par le septuor de l'orchestre symphonique de la garde républicaine, qui jouera des morceaux de Lalande, de Mozart, de Lully, et aussi hommage à la Grande-Bretagne, des morceaux de Purcell. Et maintenant, je puis vous dire que Sa Majesté, lorsqu'elle aura franchi le seuil du pavillon de nom et qu'elle aura traversé la galerie du même nom, d'ailleurs, Michel Péricard, tout à l'heure, sur son passage, vous en fera le reportage, s'arrêtera pendant quelques instants dans la salle des Antiques, les salles des Antiques qui ont été, elles aussi, magnifiquement parées et décorées pour la circonstance et abondamment garnies de fleurs, ai-je besoin de le dire. Sa Majesté posera ses pieds sur les tapis de la savonnerie et ses regards, quand elle le fera, surtout du salon Phidias, plus spécialement, qui lui est plus spécialement réservé, posera ses regards sur quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, tant française que hollandaise, qu'italienne et anglaise. Et je puis vous dire que sur ces tentures gris perle et bleu nuit, on pourra y voir en particulier des œuvres, d'abord la Joconde, bien entendu, et aux côtés de la Joconde, des œuvres comme l'Embarquement pour Cythère de Watteau, la Belle Dentelière de Vermeer, le Portrait d'une princesse de la Maison d'Est, un délicieux tableau de Pisanello, une œuvre du Titien, la Vierge au Lapin, le Déjeuner de Boucher, Saint-Georges de Raphaël, un paysage de Claude Lorrain, des Degas, des Corot également, et enfin de ravissants portraits de Gainsborough, de Russell et de Reynolds, grands peintres anglais, comme vous savez tous, et qu'on a tenu aussi à faire figurer dans cette petite galerie de chefs-d'œuvre miniatures qui lui permettra, somme toute, de faire une visite rapide, sans bouger de place, à travers les salles de notre beau musée. Et auparavant, elle aura d'ailleurs signé le livre d'or dans la salle des Antiques, qui d'habitude est réservée à quelques-unes des plus belles pièces de l'Antiquité grecque, et qui ce soir-là ont fait place à un splendide mobilier prêté par le Mobilier National. J'ai aperçu tout à l'heure, en parcourant rapidement ces salles avant de venir jusqu'à mon micro, quelques-uns des magnifiques fauteuils Louis XVI, et quelques-uns aussi des guéridons du bureau, qui donnent à cette salle un air d'intimité, mais d'intimité tout de même assez fastueuse. Et partout aussi des gerbes, d'immenses corbeilles de roses, d'aron, de lys, et qui apportent cette couleur, cette tache de couleur merveilleuse que déjà l'on pouvait voir hier à Versailles. Ici, en ce moment, les éclairages sont encore assez brillants. Tout à l'heure, ils vont être légèrement atténués de façon à laisser briller les flammes des chandelles qui déjà, d'ailleurs, viennent d'être allumées. ces 10 chandeliers qui sont étagés tout au long de cette table en nu et qui vont donner cet air de fête à la fois discret et seigneurial et qui convient parfaitement à cette ambiance renaissance où nous trouvons maintenant. Je crois que tout a été fait pour donner à cet instant, à ce dîner qui se prépare, cet aspect de grandeur, je ne dirais pas austère, mais noble, et qui, mon Dieu, venant après les journées glorieuses de Versailles, auront fait faire à Sa Majesté, je crois, un tour à travers l'histoire de France, dont probablement elle gardera un bon souvenir. Je voudrais dire aussi que le menu, mon Dieu, pourra se mesurer avec celui d'hier à Versailles, à la Galerie des Glaces, puisqu'aussi bien il est dû au même grand artiste et grand chef qui s'appelle Francis Marceroux et qui a prévu quelques plats qui pourront honorer grandement, je crois, la gastronomie française. Je puis vous dire, pour satisfaire votre curiosité, que le menu de 200 couverts commencera par une truite givrée printanière, se poursuivra par un délice de pintade Véronique, puis par un hérisson périgourdin au nid, comme c'est joli, et enfin une pêche glacée Mireille accompagnée de mignardises, et bien entendu arrosée tout au long des plus grands crus de France, en particulier Chablis. Houtonne 1950, Château-Latour 1934, Chambol-Musigny 1947 et enfin Paul-Roger 1934. Voilà pour le menu. Et je crois que là aussi, la France aura bien fait les choses et aura soutenu sa réputation. Et maintenant, je pense que peut-être il est temps de rendre le micro à notre ami Max Petit, car l'instant ne doit pas être éloigné où Sa Majesté viendra de faire son entrée dans la cour d'honneur du Louvre. Max Petit, si vous m'entendez. Allô, Max Petit, m'entendez-vous? Allô, allô, Max Petit, m'entendez-vous?
Je vous entends, Samy Simon, je vous entends.
Alors, je pense que peut-être...
Pour le moment, nous attendons aussi l'arrivée de Sa Majesté et de Son Altesse Royale, le Prince Philippe.
Eh bien...
On me signale que le cortège est à la hauteur de l'avenue de Marigny et qu'il sera là dans quelques minutes.
Bon, eh bien, alors, je pense par conséquent que vous pourrez, à ce moment-là, me couper si je bavarde trop au micro. De même que Péricard, qui doit toujours monter lui aussi une garde fidèle et vigilante à l'intérieur de la salle de nom. Allô, Michel Péricard, m'entendez-vous?
Oui, bien sûr, Samy Simon. Bon.
Alors, je pense que vous avez, vous aussi, sous les yeux, un magnifique spectacle avec la garde républicaine en grande tenue, qu'il ne manque pas un grand blanc et il ne manque pas non plus un plumet au casque éclatant.
Il ne manque absolument rien et je le disais tout à l'heure, cette double haie de garde républicain est, comment dirais-je, doublée, triplée par une autre haie, celle de ces statues équestres ou mythologiques diverses qui sont derrière sur leur socle de marbre, et une troisième haie de bustes qui ont, est-ce une attention, on a l'impression qu'en se déplaçant, quel que soit l'endroit où on est, ils regardent toujours le centre de cette galerie et tout à l'heure ainsi ne perdront pas un moment du passage du cortège royal. Eh bien, dans cette galerie, pour l'instant, tout est calme. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les personnalités étaient arrivées pour être en place dans la salle où vous êtes, justement, Samy Simon, avant que le dîner ne commence. Nous avons vu repasser dans l'autre sens le gouvernement au grand complet pour aller accueillir tout à l'heure M. René Coty, et qu'il actuellement doit s'apprêter à accueillir Sa Majesté la Reine et le Prince Philippe. Et dans un instant, nous nous attendons donc à voir déboucher à l'entrée de cette galerie des noms ce cortège royal. Et nous sommes du point le plus éloigné possible de cette entrée, donc nous pourrons voir ce cortège arriver de très loin. Nous le verrons arriver jusqu'à nous et au pied de cet escalier. Il s'arrêtera un instant, je le redis, pour regarder cette extraordinaire statue, la victoire de Samothrace. Comme pour barrer... Oui ?
Vous m'entendez, je pense ?
Oui.
Bon, alors, si vous m'entendez, peut-être ai-je encore un instant avant que vous ne repreniez l'antenne après Max Petit. Et puisque nous en étions au chapitre de la statuaire, peut-être pourrais-je dire un mot d'une regrettable omission que j'ai faite, pardon, à propos de quelques-unes des pièces rares qui se trouvent dans la salle des cariatides. Et en particulier, je voudrais dire qu'au centre de cette salle se trouve la fameuse Diane Chasseresse, qui est une copie antique du bronze du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui fut acquise par François Ier et qu'on appelle aussi la Diane de Versailles. Et on a quelque peu bousculé l'ordre habituel ici des statues antiques, puisque la salle des cariatides est réservée en général à la statuaire grecque. On en a enlevé certaines pour évidemment faire la place nécessaire au banquet, mais on a laissé toutes celles que l'on a pu dans leur ravissante loggia. Et en particulier, il y a là de fort belles, en dehors de la Diane Chasseresse dont je vous parlais à l'instant, il y a là quelques fort belles statues comme cet adorable enfant à l'oie, ou les trois grâces, si fameuses, et encore, j'ai là sous les yeux, une Aphrodite accroupie, la Vénus de Vienne, une Ariane endormie, et qui sont tous des chefs-d'œuvre grecs de la période hellénistique, qui va du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je dirais aussi de la décoration de la salle que toutes les portes et les fenêtres géantes ont été masquées par des rideaux, des tentures bleues nuit. Et que tout à l'heure, lorsque les motifs décoratifs du plafond, du magnifique plafond, auront été un peu tamisés, alors la salle, à la seule lueur des chandelles, apparaîtra dans toute sa noble splendeur. Dès maintenant, les maîtres d'hôtel en habit à la française sont tous, bien entendu, rangés en ordre et tout est prêt pour recevoir dignement Sa Majesté, Son Altesse Royale et le Président de la République dès que l'instant en sera venu. Et dans la loggia aussi, où si souvent Henri II et les dames de la cour, ou plutôt les reines, puisque cette loggia était réservée à la famille royale, où si souvent elles ont pu ici assister à des spectacles, et plus tard d'ailleurs au nombre d'entre elles, et au nombre d'entre eux, Louis XIV assistait ici même à l'amour médecin que pour la première fois présentait devant lui Molière. Et bien tout à l'heure, les harmonies de Purcell mêlées à celles de Lully et de Mozart viendront saluer l'entrée de la reine. Mais maintenant je crois peut-être qu'il est temps tout de même de repasser l'antenne à Max Petit. Allô, Max Petit, m'entendez-vous ?
Je vous entends, Samy Simon, et nous attendons toujours le cortège royal.
Bon, eh bien, écoutez, vous pourrez, je pense, être en mesure, au besoin, de me couper, si vous entendez les premières sonneries et les premiers honneurs de l'endroit où vous êtes, et, afin que nous ne perdions rien de cet instant qui marquera l'entrée de Sa Majesté dans le Vieux Louvre. Le Vieux Louvre, précisément, c'est ici. Nous sommes ici dans le Vieux Louvre, dans l'une, je vous l'ai dit, dans la plus ancienne des salles du Vieux Louvre, et qui accède directement à cette cour carrée, cette magnifique cour carrée qui vraiment est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Et tout à l'heure, pour aller dans la loggia supérieure, juste au-dessus de moi, où sont juchés les musiciens, je passais par ce magnifique escalier Henri II, où rien n'a changé d'ailleurs depuis son époque, et où, en levant les yeux, on peut voir encore les macarons, les magnifiques hauts reliefs qui ont été sculptés par Jean Goujon. Et cela s'ajoute encore à cet aspect de grandeur. Derrière les portes qui sont en ce moment recouvertes de ce magnifique velours bleu nuit se trouvent également d'autres médaillons, d'autres sculptures de Jean Goujon. Et comme de l'autre côté, à l'autre extrémité, la cheminée monumentale que j'aperçois tout au fond de la salle des cariatides et qui s'orne de motifs à la fois gracieux et monumentaux, dus également à Jean Goujon. C'est ici le meilleur d'une époque qui commençait à arriver, à donner le maximum, la quintessence du savoir-vivre, du goût de vivre, des belles choses, et où tout était fait pour réjouir l'œil. Eh bien, maintenant, je crois que je vais passer l'antenne à Max Petit, de façon à ce qu'il ne manque pas l'instant, qui ne saurait plus tarder, puisqu'il n'y avait pas si loin de l'avenue Marigny à la cour du Louvre. Max Petit, si vous m'entendez, je vous passe un instant le micro.
Effectivement, je crois que le cortège arrive. Je vois passer devant le carrousel le motocycliste de tête avec son phare vert et qui doit indiquer que le cortège royal suit. Et je vois que déjà les personnalités du protocole sont devant le perron du pavillon Denon entre la double haie de garde mobile. Je vois maintenant plus près le motard avec son feu vert et je suppose que la voiture royale doit suivre immédiatement derrière d'ailleurs la voiture protocolaire qui la précède toujours et dans laquelle aura certainement pris place monsieur de la Chauvinière, chef du protocole, s'il n'est pas encore arrivé. Le cortège arrive lentement, je vois le feu vert s'avancer tout doucement vers le péristyle. Maintenant, le motard en grand uniforme passe devant nous et c'est certainement la voiture royale qui tourne devant le carrousel et qui va arriver vers nous. Et effectivement, je vois descendre du perron et du péristyle Monsieur Jean Brié, préfet de police, qui précède certainement Monsieur Guy Mollet, président du Conseil, Monsieur Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères, et Monsieur Billère, ministre de l'Éducation nationale. Le président du Conseil, avec la poitrine barrée du grand cordon bleu, blanc, rouge, et descend lentement les marches, suivi à sa droite, derrière à sa droite de M. Billère, à sa gauche de M. Christian Pinault, et puis il y a aussi M. Jean Brié, préfet de police, et le président du conseil est maintenant devant le perron, entre les gardes mobiles, pour attendre la voiture royale qui ne saurait tarder et qui a certainement pénétré maintenant dans cette cour du Louvre. Dans cette cour du Louvre où il n'y a évidemment pas de public puisqu'elle n'a pas été admise. Et c'est pourquoi vous n'entendez pas tout ce cortège d'acclamations que vous avez pu percevoir en écoutant nos reportages tout au long des journées de la visite royale. La voiture n'est pas encore maintenant devant le perron du pavillon Denon et le président du conseil retourne se mettre un peu à l'abri dans le péristyle parce que je dois vous dire que le ciel est très clair, la nuit est maintenant complètement tombée, mais il fait légèrement froid, il y a un léger vent et s'il fait beau, il ne fait pas extrêmement chaud. On me dit d'ailleurs qu'il est tombé de la neige à Aix-en-Provence aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là à Paris, mais le temps s'est considérablement rafraîchi après les prémices d'un printemps qui devait être très chaud, si l'on en croyait les premières apparitions d'un soleil qui fut radieux la semaine dernière et depuis le premier jour de l'arrivée de la reine d'Angleterre et du prince Philippe en France. Je vois tout de même qu'il y a une certaine agitation dans le groupe des personnalités du protocole. Le service d'ordre est là, avec les gants en blanc, la fourragère rouge des gardiens de la paix de Paris, et toujours immobile, les gardes mobiles d'ailleurs, sont là, sabre au clair, et prêts à présenter les armes à Sa Majesté la Reine d'Angleterre et à Son Altesse Royale le Prince Philippe. La télévision opère et je vois les sunlights qui éclairent le lieu où nous nous trouvons. Je me trouve d'ailleurs exactement derrière les gardes mobiles et il y a, je crois, en ce moment, un signe qui nous indique que la voiture a franchi le seuil de la cour du Louvre. Elle est annoncée. Et dans quelques instants, même pas une minute je suppose, nous pourrons voir descendre la voiture, la reine d'Angleterre et son mari, le prince Philippe. D'ailleurs, maintenant, le président du conseil, le ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale et monsieur Jean Brié se préparent à aller accueillir la reine et le prince à leur descente de voiture.
Quelque chose d'une grandeur et d'une simplicité à la fois qui nous impressionne. Je me recule parce que Sa Majesté va maintenant arriver juste à côté de nous. Vous entendez sans doute les tubas des gardes républicaines qui, cachés près de nous, l'accueillent par des sonneries napoléoniennes. Sa Majesté est peut-être à un mètre de moi. Elle est aussi belle et aussi gracieuse qu'on peut l'imaginer, son diadème scintille. Et comme je vous l'ai dit, la victoire de Samothrace s'éclaire. Elle s'illumine, l'escalier s'illumine. Et Monsieur René Coty, sans doute ne l'avait-elle pas vu, Monsieur René Coty, fait arrêter le cortège et du doigt lui montre cette victoire de Samothrace. La Majesté regarde, et elle regarde encore en partant, et tandis qu'elle tourne à gauche pour descendre l'escalier qui va la conduire au salon des cariatides, elle a eu un dernier regard pour cette statue extraordinaire. Les tubas continuent à jouer en son honneur, et maintenant, ce cortège vient passer devant nous, rien que des hommes, je vous le disais. Ça fait vraiment quelque chose de solennel et d'imposant, cet hommage rendu par tous les hauts dignitaires de la République française à cette reine aussi belle ce soir et aussi gracieuse. Sa Majesté descend maintenant l'escalier. elle va arriver dans ces petits salons fleuris où qu'elle va traverser avant d'aller signer le livre d'or. Et je ne peux plus rien voir maintenant. Et je pense, Samy Simon, que c'est à vous qu'il appartient de continuer la relation de cette arrivée du cortège royal.
Eh bien, Michel Péricard, je reprends volontiers le micro. Cependant, je dois indiquer qu'il va se passer quelque temps avant que Sa Majesté ne fasse son entrée dans la salle des cariatides. Car le protocole a prévu, et en cela il a fort bien fait, de lui faire admirer au passage quelques-uns de nos chefs-d'œuvre et quelques-uns aussi des siens, puisque aussi bien, comme je vous le disais tout à l'heure, certaines œuvres de grands peintres anglais sont accrochées sur les tentures du salon Phidias, où elle va se reposer un instant après avoir signé le livre d'or dans la salle des Panathénées. Et ce n'est qu'alors qu'elle fera son entrée dans la salle des cariatides, pour l'instant encore brillamment illuminée, de façon à ce qu'elle ne perde pas un détail de cette merveilleuse et fine architecture. Mais en raison du léger retard qui est apporté aujourd'hui à l'arrivée prévue, il est possible qu'on écourte cette visite et qu'elle arrive par conséquent dans cette salle dans quelques instants seulement. Je ne le souhaite pas tellement, encore que je regrette de vous infliger ma seule prose ou mon seul verbiage, mais parce que cela au moins lui donnera le temps de regarder d'un peu plus près et un peu mieux ces six belles choses qui vont d'une gerbe de fleurs à un chef-d'œuvre peint sur une toile. Et cela, mon Dieu, pour le plaisir des yeux et de quelques minutes pour la souveraine, cela vaut bien que nous attendions aussi ces quelques minutes. Par conséquent, je vous demande à tous auditeurs de bien vouloir patienter et de ne pas non plus prendre ombrage de ce petit retard qui peut-être retarder un tout petit peu aussi l'heure de votre dîner. En ce moment, déjà, entre nombre de personnalités dans la salle, puisque vous savez qu'il est d'usage que les invités soient déjà présents lorsque Sa Majesté fera son entrée. Et d'ailleurs, tout cela en ce moment se passe dans une certaine familiarité, puisque les maîtres d'hôtel vont et viennent, apportent une dernière touche à la table. Ils disposent un menu fort élégamment dessiné et gravé que je n'aperçois pas de l'endroit où je suis, puisque j'ai dû moi me blottir, comme je vous l'ai dit, sous la loggia, de façon à ne pas gêner les années venues et ne pas non plus apporter une tâche inopportune dans ce merveilleux décor. Je vous ai dit, je vous ai tout à l'heure parlé du menu et de la table richement ornée et de toutes les fleurs qui sont répandues ce soir à profusion dans cette salle. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que à la sortie, Sa Majesté gagnera les salles des Antiques et la Galerie Auguste après être allé prendre le café dans la salle Phidias, pour retrouver là environ 2500 invités qui ont été conviés par le président du conseil, par le gouvernement, pour cette merveilleuse soirée qui terminera ce soir les trois trop courtes journées que Sa Majesté a bien voulu passer en France. Et 2500 invités de marque, bien entendu, qui s'égailleront au long de ces pièces où l'on a ajouté au style noble du décor antique qui les part d'habitude, où l'on a ajouté aussi la note vive des fleurs, des tentures, un mobilier sorti du mobilier national, et aussi, car il ne faut pas oublier cela, un buffet, ou plutôt des buffets somptueux dans chaque salle. Et cela aussi sera un grand moment de Paris, puisque toutes les sommités du monde, des lettres, des arts, des sciences et aussi de la politique se trouveront réunies auprès du corps diplomatique au complet et auprès aussi de nombre de personnalités de la colonie britannique venues saluer leur souveraine. Ce sera donc une grande soirée de Paris qui terminera ces trois journées. Mais je vois maintenant que beaucoup d'invités s'approchent de la table et peut-être l'instant n'est-il pas éloigné où Sa Majesté fera elle-même son entrée à l'autre extrémité de cette pièce, du côté de la cheminée monumentale dont je vous parlais tout à l'heure. J'essaye de m'approcher un tout petit peu, car de l'endroit où je me trouve, n'étant pas dans l'axe de la salle, il m'est difficile de voir autre chose que les chandeliers, d'ailleurs magnifiquement allumés, et la haie de maître d'hôtel qui a pris position et qui n'attend plus que l'instant de servir Sa Majesté. Non, mais je pense et même je souhaite qu'elle ait pris le loisir tout de même d'admirer ces très belles œuvres qui sont en ce moment disposées, comme je vous l'ai dit, dans le salon Phidias et où fraternisent les meilleurs chefs-d'œuvre de la peinture française, italienne, allemande, hollandaise et aussi, bien entendu, anglaise. Si je pouvais demander au maître d'hôtel de bien vouloir, s'il était possible d'avoir un menu, je pourrais au moins dire de qui est la très belle page gravée et qui se trouve sur... Voilà, merci. Merci, vous êtes très aimable. Alors, j'ai entre les mains maintenant un fort beau menu qui a été finement décoré. Je cherche le nom de son décorateur. Pardon, permettez-moi. Non, pas dans ce sens-là. Dans l'autre, je crois que c'est un menu de Decaris et qui, bien entendu, a pris pour motif la cheminée monumentale de la salle des Cariatides, avec en premier plan la Diane chasseresse que moi j'ai aussi sous les yeux quand je lève les yeux. Merci beaucoup, maître d'hôtel. Eh bien, voilà, une petite indiscrétion. J'ai pu même m'approcher de la table. Maintenant, de plus en plus, les invités en grande tenue s'approchent. Je vois de brillants uniformes constellés de décorations. J'aperçois aussi des femmes qui apportent ici la note vive de robes dont les tons vont du gris au mauve en passant par les bleus, les roses et les verts tendres. Et c'est déjà dans cette salle une très jolie symphonie de couleurs. Et je commence à voir quelques personnalités bien connues à Paris, membres du gouvernement qui viennent prendre leur place de façon à être autour de la table lorsque Sa Majesté paraîtra. Pour le moment, on en est encore à se livrer à cette opération qui consiste pour un nombreux public d'invités à trouver la place qui lui a été affectée à cette table en nu de grande dimension. Et cela va procurer, je crois, à certains une sorte de petite promenade touristique à travers la salle des Cariatides dans sa plus grande longueur. Car en général, pour ces sortes de manifestations, on est évidemment, on arrive au bout de ses peines seulement à la fin du voyage. C'est-à-dire que son petit carton est précisément à l'opposé de l'endroit par lequel on a commencé son exploration. Non, je m'excuse si il y a peut-être un petit peu de flottement. Je crois que Sa Majesté a dû faire son entrée sans que j'aie pu encore l'apercevoir. Je vais essayer indiscrètement de m'approcher davantage de la table et de rendre compte, s'il se peut, de cet instant. Savez-vous si Sa Majesté est entrée d'ici? Je ne peux pas voir.
Encore pour l'instant. Elle ne va pas tarder.
Merci. Je pensais qu'il était d'usage que les invités attendent que Sa Majesté soit en place pour s'asseoir. Oui, je vois que certains d'entre eux ont déjà pris place à leur table.
Oui, mais dès son arrivée, elle va, les personnalités du moins vont se relever.
On se relève, c'est cela. Par conséquent, c'est une petite répétition générale. On ne sert pas encore le potage, rassurez-vous. Et je m'excuse de cette petite familiarité. Simplement, C'est une indication que Sa Majesté n'est pas loin. Les gens sont assis de façon à pouvoir se lever en signe de déférence lorsqu'elle fera son entrée par le fond de la salle des cariatides. Et chacun maintenant est en place, chacun a trouvé son carton et les chandelles resplendissent, on atténue un peu la lumière des plafonds, ces merveilleux plafonds, qui d'ailleurs ne sont pas évidemment les plafonds authentiques de l'époque Henri II, lesquels étaient en bois, mais qui ont été très habilement et très joliment restaurés sous l'époque napoléonienne par deux architectes, Percier et Fontaine. Mais fort heureusement, ils ont gardé le style, ou plutôt ils ont poursuivi le style des colonnes, le style de la salle, si bien qu'il règne ici une très grande harmonie entre ce qui est d'époque Henri II et ce qui est de l'époque Napoléon Ier, c'est-à-dire Henri II restauré. Et bien maintenant, tout le monde a pris place, je crois qu'il n'y a plus de place de siège vide, sauf bien entendu ceux du cortège royal, ceux du président de la République et de monsieur le président du conseil, accompagnant et accueillant sa majesté et son altesse royale le prince Philippe. Et dès maintenant, j'ai sous les yeux un spectacle à cela presse, pendant que malheureusement je ne puis voir de l'autre côté. Et je ne pourrais par conséquent voir Sa Majesté, j'ai sous les yeux tout de même le très beau et très rare spectacle.
Thank you. Eh bien, c'est par cette magnifique, cette délicate aussi, petite symphonie de la langue qui s'appelle Petite symphonie pour le dîner du roi, ce qui véritablement était bien de circonstance, que l'on a salué l'entrée de Sa Majesté dans la salle des cariatides. Et maintenant, elle a pris place à sa table entre le président de la République et M. Guimollet, avec son Altesse le prince Philippe. Et maintenant commence ce grand dîner qui va terminer et clôturer magnifiquement, somptueusement, avec la réception qui suivra dans le salon d'Auguste, et qui va clôturer somptueusement la série des trois jours que Sa Majesté la Reine d'Angleterre est venue passer en visite officielle en France. Après le dîner donc, elle ira quelques instants se reposer et prendre le café dans la salle Phidias, d'où elle vient à l'instant même. Après quoi, elle ira retrouver ses invités, je vous l'ai dit, dans les salles des Antiques et au salon d'Auguste, ainsi nommé en raison du buste de la statue, de la magnifique statue d'Auguste qui l'orne parmi beaucoup d'autres. Et de là, elle gagnera enfin la sortie vers 23h30 ou 23h45, en passant par la cour du Sphinx, où elle aura encore là l'occasion d'admirer magnifiquement parées, décorées et de fleurs, quelques-unes des plus belles pièces de l'architecture et de la sculpture grecque ancienne, et aussi cette magnifique mosaïque retrouvée en Asie mineure, cette magnifique mosaïque de Daphné près de Troie, et qui représente une scène de chasse. Et tout ici a été fait pour, je vous le répète, pour le plaisir des yeux, et vous l'entendez aussi des oreilles. Et je pense que Sa Majesté gardera un aussi bon souvenir de cette soirée que de celle d'hier, qui fut vraiment l'hommage de Paris tout entier à la souveraine au cours de cette splendide promenade sur la Seine. Et bien maintenant, je crois que, tandis que retentissent les premiers accords d'une petite suite d'une sérénade de Mozart, si je ne me trompe, eh bien, je crois que peut-être nous pourrons, avec cette musique, vous laisser maintenant prendre à votre tour, vous aussi, congé de Sa Majesté et des invités du gouvernement français et qui ce soir sont à sa table. Nous vous quittons donc, après cette musique, le Vieux Louvre, et nous retrouverons Sa Majesté demain en France, mais non plus à Paris. Pour l'instant, c'est ici son dernier soir, mais nous souhaitons que bientôt nous puissions en connaître d'autres. Alors, nous vous quittons en vous laissant écouter cette musique. Heureux pour notre part si nous avons pu faire passer dans le micro un instant de la grandeur du Vieux Louvre et de cette soirée qui commence. Au revoir à tous.
C'était le reportage depuis le Palais du Louvre du dîner offert par le gouvernement à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Son Altesse Royale le Prince Philippe, Duc d'Édimbourg et M. René Coty, Président de la République. Reporteurs Samy Simon, Michel Péricard et Max Petit.
Cette émission a été diffusée en direct sur Paris Inter, relayée par la chaîne parisienne le 10 avril 1957. Vous pourrez réécouter ce reportage en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». ».